Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h.
Tout ce qui est possible à rapatrier a été rapatrié avec les libéraux, avec les cliniques privées, avec des gens qui sont embauchés pour faire des tâches peu qualifiées et qu'on peut prendre sans qu'ils soient diplômés.
À l'hôpital de Dieppe, tout est mis en œuvre pour assurer la continuité du service. Alors que 140 soignants sont touchés par le Covid, presque autant de patients ont été contaminés. Nous serons sur place dès le début de ce journal.
Le variant anglais est-il plus meurtrier que les autres souches? C'est en tout cas l'hypothèse évoquée hier soir par le Premier ministre britannique Boris Johnson.
Quand de vrais chefs d'entreprise déclarent de faux salariés, voilà qui donne une immense escroquerie au chômage partiel dans le Loir-et-Cher. Au moins 450 000 euros ont été versés indûment par l'État. Un couple a été placé en détention provisoire.
Enfin, Kylian Mbappé veut-il quitter Paris ou est-ce un jeu de dupes? En tout cas, l'attaquant s'est dit hier soir en pleine réflexion.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'un des clusters qui inquiète les autorités ces derniers jours. Un foyer de Covid qui ne touche pas n'importe quel établissement puisqu'on est en plein cœur de l'hôpital de Dieppe.
141 soignants et 137 patients ont contracté le virus. Une cellule de crise a été mise en place hier matin pour tenter de comprendre et réagir au plus vite car il faut réorganiser tous les services. Aujourd'hui, face à la situation, les habitants hésitent même à venir aux urgences de peur d'engorger l'hôpital. Reportage de notre envoyé spécial Damien Mestre.
Bien évidemment qu'on n'est pas rassuré. Si on pouvait le soigner nous-mêmes, on le ferait. On se pose la question.
À l'entrée des urgences de Dieppe, certains comme Cyril hésitent avant de se présenter à l'accueil. Son fils est malade, des maux de ventre violents qui ne passent pas malgré les visites chez le médecin. Mais après 3 jours de doute, reste la peur du coronavirus et puis celle de saturer les services.
C'est super difficile et comment faire pour les soulager? Donc on va éviter de les polluer peut-être pour pas grand-chose.
Il faut dire qu'avec près de 10% des agents désormais contaminés, la situation est plus tendue que jamais pour les soignants. Alors, les syndicats demandent au gouvernement une aide nationale. Selon Bruno Ric, responsable CGT, il n'y a tout simplement pas assez de soignants à Dieppe pour surmonter cette crise.
Localement, tout ce qui est possible à rapatrier a été rapatrié avec les libéraux, avec les cliniques privées, avec des gens qui sont embauchés pour faire des tâches peu qualifiées et qu'on peut prendre sans qu'ils soient diplômés. Tout ça a été fait.
La direction de l'hôpital reconnaît que la tension est importante sur les effectifs, mais elle parle d'une situation désormais maîtrisée. À Dieppe, Damien Mestre, Europe 1.
La situation est-elle maîtrisée? En posant la question au maire de Dieppe, Nicolas Langlois, il sera l'invité du journal de 8h30.
En France, l'épidémie continue de progresser. Un peu plus de 23 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Le nombre d'hospitalisations augmente. Certains hôpitaux sont obligés de transférer leurs patients. C'est le cas dans les Alpes-Maritimes.
Et la menace des variants impose une vigilance encore plus grande. La souche britannique, que l'on sait plus contagieuse, pourrait également être plus meurtrière. Écoutez les mots hier de Boris Johnson, le Premier ministre britannique.
Il apparaît maintenant qu'il existe des preuves que le nouveau variant, celui qui a été identifié pour la première fois à Londres et dans le sud-est du pays, peut être lié à un degré plus élevé de mortalité. C'est en grande partie l'impact de ce nouveau variant qui fait que notre service de santé est soumis à une pression si intense.
Boris Johnson, dont les affirmations pour l'heure n'ont pas été confirmées par l'Organisation mondiale de la santé. Ces variants, en tout cas, inquiètent au point que la Belgique, Isabelle Horry, a décidé d'interdire les voyages non essentiels.
Oui, c'est l'une des mesures les plus drastiques d'Europe. Le Premier ministre belge explique qu'il veut dresser un rempart contre le virus à un moment où la situation de son pays est meilleure que celle de ses voisins. Depuis début novembre, les contacts sociaux sont réduits au strict minimum en Belgique et ça donne des résultats. 2000 contaminations hier pour 11,5 millions d'habitants, alors que dans le même temps, il y en a eu plus de 23 000 en France. Alexander De Croo, le chef du gouvernement, veut limiter ce qu'il appelle l'importation des nouveaux variants.
Je sais que c'est une mesure très contraignante, mais on a vu les semaines passées que quand les gens voyagent, le virus voyage avec eux. Et nous avons vu dans les échantillons de tests, il y a beaucoup plus de variantes chez les gens qui ont voyagé que chez les gens qui n'ont pas voyagé.
Les autorités belges n'ont pas apprécié qu'à Noël, des dizaines de milliers de personnes partent alors que les voyages à l'étranger étaient déjà fortement déconseillés. Un cas a marqué les esprits, des malades dans une famille qui était partie en vacances en Suisse et qui n'a pas respecté les mesures sanitaires au retour. Elle a provoqué la fermeture de 2 écoles et la mise en quarantaine de 5000 personnes.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Sachez que la France, dès demain, imposera un test négatif pour pouvoir entrer sur son sol depuis un autre pays européen. Tests qui devront être présentés pour les arrivées en avion ou en bateau.
Oui, en avion ou en bateau, pourquoi pas en train et en voiture. On posera la question, tiens, à Marlène Schiappa dans quelques minutes.
Et puis aux États-Unis, cette déclaration du nouveau président Joe Biden, il estime que le Covid-19 fera plus de 600 000 morts dans son pays. C'est la première fois qu'un bilan si lourd est évoqué outre-Atlantique. 410 000 personnes y ont déjà perdu la vie.
En France, c'est une escroquerie qui a vu le jour avec le premier confinement et les aides accordées par l'État. Un couple du Loir-et-Cher a été mis en examen pour fraude au chômage partiel.
Et on ne parle pas d'une petite fraude, hein, puisqu'en tout, le couple aurait empoché plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils sont ce matin en détention provisoire. Guillaume Bier.
Ils pensaient avoir trouvé un filon en or lors du premier confinement. Pour faire un maximum de profit, ce jeune couple du Loir-et-Cher s'est attaché les services d'un comptable complice. À eux trois, ils ont réussi à détourner plus de 450 000 euros des caisses de l'État en abusant du système du chômage partiel. À partir d'une demi-douzaine de sociétés bien réelles, les escrocs présumés ont artificiellement gonflé les effectifs de ces entreprises en faisant déclarer des dizaines de salariés totalement fictifs. Les aides de l'État ont été automatiquement versées, mais après coup, l'inspection du travail s'est penchée sur ces sociétés et a prévenu la justice. Police judiciaire d'Orléans, parquet de Blois et direction du travail du Loir-et-Cher, main dans la main pour démonter cette escroquerie en bande organisée. Le couple au cœur du dossier a été mis en examen. 216 000 euros ont été saisis sur leur compte en banque. Et c'est assez rare en matière financière. Le juge a placé les deux suspects en détention provisoire.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Le député de Gironde, Benoît Simian, dénonce des affirmations gratuites non corroborées. Selon le journal Le Monde, cet élu ancien de La République En Marche aurait cherché à éviter la justice. Lui qui est sous le coup d'une enquête pour harcèlement moral, son ex-femme a porté plainte. Mais Benoît Simian bénéficie toujours de son immunité parlementaire.
8h07, vous restez avec nous dans un instant. Joe Biden peut-il rétablir le dialogue entre les États-Unis et l'Iran? Ce qui est sûr, c'est que ça ne se fera pas à n'importe quel prix. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
8h08, la suite du journal de Marguerite Lefebvre. Aux États-Unis, Joe Biden est entré à la Maison-Blanche depuis moins d'une semaine et il est déjà au travail.
Oui, plusieurs décrets ont déjà été signés. La politique de Donald Trump est en partie détricotée, notamment sur ce qui concerne la politique internationale. Les États-Unis sont de retour dans l'accord de Paris, dans l'OMS également. Et qu'en sera-t-il de la relation avec l'Iran? Élément de réponse avec Jean-Sébastien Soldaini.
Les deux pays jouent une partie de poker, alors les Iraniens demandent à voir. Ils ont bien remarqué que Joe Biden a dévoilé quelques cartes, quelques noms qui rappellent des souvenirs à Téhéran. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, William Burns à la tête de la CIA, Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, tous ces nouveaux visages sont des artisans de l'accord sur le nucléaire. Mais attention, ce ne sont que des gages de bonne volonté, car le nouveau président américain a jusque-là posé des conditions. La relance des tractations n'est possible que si l'Iran accepte de repenser sa politique d'influence dans la région, au Yémen, en Irak, en Syrie ou encore si elle revoit son programme balistique. Le problème est que ces deux dossiers sont non négociables pour les Iraniens. La discussion risque de tourner court. Quoi qu'il en soit, il faut aller vite, car au mois de juin, l'Iran vote pour élire un nouveau président et c'est le camp conservateur qui est le mieux placé pour l'emporter, le camp le plus hostile aux relations avec Washington.
Les explications de Jean-Sébastien Soldaini. Aux États-Unis, le procès en destitution de Donald Trump débutera dans une quinzaine de jours au Sénat. Au Sénat américain, il s'ouvrira la semaine du 8 février.
On passe au sport avec un sourire qui nous avait manqué.
Oui, celui de Kylian Mbappé, rayonnant hier soir face à Montpellier après plusieurs semaines de doutes. L'attaquant parisien a inscrit un doublé, ce qui a permis au PSG de s'imposer 4-0. Une victoire, mais des interrogations tout de même. Kylian Mbappé va-t-il rester à Paris? Lui-même n'en est pas sûr.
On discute avec le club, voilà, de trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion aussi, parce que je pense que c'est une signature qui, si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Et je suis très heureux ici, voilà, j'ai toujours été très heureux. Les supporters, le club, ils m'ont toujours aidé. Et rien que pour ça, déjà, je serais toujours reconnaissant envers le club. Mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire voilà, dans ces prochaines années, où je veux être. Et c'est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais je pense que oui, il faudra bientôt faire un choix, mais... Je suis en pleine réflexion.
Kylian Mbappé chez nos confrères de Téléfoot. Le PSG est toujours leader du classement devant Lille et Lyon. Ce soir, on suivra deux rencontres. Lens-Nice à 17h et puis Monaco-Marseille à 21h.
Et puis ça ne vous a pas échappé, nous sommes à 6 mois des prochains JO de Tokyo. Personne n'est capable de dire aujourd'hui s'ils auront lieu.
Non, le Japon affronte en ce moment une troisième vague de Covid qui est encore plus forte que les deux précédentes. Les Japonais sont de plus en plus réticents à l'idée d'accueillir ces Jeux. Des rumeurs font même état d'un nouveau report, Corinne Boulou.
À 6 mois de l'événement, aucune célébration particulière n'est prévue dans la ville. Il faut dire que les Japonais n'ont plus envie de se réjouir. Les sondages montrent une population devenue majoritairement hostile par crainte que l'événement n'aggrave la pandémie. Et nos confrères du Times ont donc enfoncé le clou en assurant que le gouvernement nippon aurait secrètement acté de renoncer à l'organisation des Jeux cet été pour les organiser si possible plus tard en 2032. Info ou intox balayé hier par le Premier ministre japonais et le comité d'organisation qui se sont dit déterminés à accueillir les Jeux. Le président du CIO, Thomas Barr, ayant affirmé jeudi que les Jeux auraient bien lieu et qu'il n'y avait pas de plan B. Mais à 6 mois de la cérémonie d'ouverture, le 23 juillet, les incertitudes liées au virus sont loin d'être levées et pèsent sur les comptes d'un comité d'organisation qui devra aussi se prononcer en cas de maintien sur des Jeux à huis clos ou avec un public restreint. Aujourd'hui à Tokyo, beaucoup de questions restent sans réponse, aux grandes dames des athlètes de plus en plus dans le flou, eux aussi.
Corinne Boulou, et quel que soit le format justement, les athlètes, eux, sont prêts à partir. Écoutez le perchiste français Renaud Lavillenie.
Les milliers d'athlètes qui participent aux JO, tout le monde préfère être à Tokyo, même s'il n'y a personne, même si on doit être en comité très restreint, plutôt que d'être chez soi comme on s'était cet été. Et on croise les doigts pour que, quand on va arriver au printemps, qu'on puisse avoir des compétitions qui vont pouvoir se maintenir pour nous préparer, parce que personne ne peut arriver aux Jeux Olympiques s'il n'a pas fait de compétition auparavant.
Renaud Lavillenie au micro, Europe 1 d'Axel May.
Merci Marguerite Lefebvre, à tout à l'heure pour le dernier journal de cette matinale à 9h.